cela n'était ni une ville, ni une église, ni une rivière, ni de la couleur, ni de la lumière et ni de l'ombre. C'était de la rêverie. Je suis restée longtemps immobile, me laissant doucement pénétrer par cet ensemble inexprimable, par la mélancolie de l'heure. C'était un de ces moments ineffables où l'on sent en soi quelque chose qui s'endort et quelque chose qui s'éveille, écrit Victor Hugo dans ses récits de voyage. Alors bonjour à vous qui vous éveillez et bonne nuit à vous qui vous endormez. Pour cette semaine de rêve et de rêverie en compagnie de Gaston Bachelard, l'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Clément Daté à ses côtés aujourd'hui à la prise de son, ainsi que celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, Géraldine Mosna-Savoie, bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Tout à l'heure, je ne parlerai pas du tout de Gaston Bachelard, mais de Robert Musil, dont une biographie tout réinventée de Frédéric Joly est parue aux éditions du Seuil.
10h51 à tout à l'heure donc.
Est-ce que vous tenez à ce qu'on vous appelle maître ?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du... jamais.
Ah bon ?
Non, appelez-moi Gaston Bachelard, c'est tout. Oh non. Si vous... pas monsieur le professeur.
Moi, je
pas de blague, non, c'est fini. Je suis un homme absolument dans la liberté. Non, tout le monde m'appelle Bachelard. Quoi.
Gaston Bachelard n'est pas un philosophe comme les autres. Pas seulement parce qu'il est autodidacte, parce qu'il fut d'abord employé des postes et télégraphes et professeur de physique et de chimie avant de devenir professeur de philosophie. Pas seulement parce qu'il est né à Bar-sur-Aube et qu'il gardera toute sa vie un accent bourguignon, et oui, aux sonorités de sous-bois humides et d'eau dormante. Pas seulement non plus parce qu'il aimait passionnément parler à la radio et que de cette passion nous restent des dizaines d'heures de causeries, témoignages précieux d'une pensée aussi intuitive que rigoureuse. Mais aussi parce que Bachelard n'a jamais choisi entre la science et la poésie, entre l'épistémologie et la phénoménologie, et qu'il a écrit tant sur la solitude d'un écrivain face à sa chandelle que sur les vertus de la négativité dans l'histoire des sciences. Bachelard pense comme on rêve, avec la même facilité et la même créativité, et cette semaine, nous allons rêver avec lui. Mais comme chez lui, même la rêverie est précise, c'est avec ordre que nous allons procéder, un ordre qui correspond au cœur de la pensée de Bachelard qui ne cesse d'interroger et de décrire la matière. Le feu, l'air, l'eau et la terre, 4 éléments qui feront 4 émissions. Ainsi demain, Marie-Pierre Lassu s'interrogera sur le lien entre l'air et les songes. Mercredi, Jean-Philippe Pierron plongera dans l'eau et les rêves. Et jeudi, c'est Julien Lamy qui creusera la terre et les rêveries de la volonté. Mais aujourd'hui, pour enflammer le studio en douceur, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bontemps, qui vient vous conter l'art de tisonner, les secrets du brûlot, le geste du philosophe qui consiste à perdre le fil de sa pensée lorsqu'il lève les yeux pour contempler sa chandelle, la fascination pour les incendies comme pulsion de mort, et encore tant d'autres manières de rêver avec Bachelard autour du feu. Bonjour à vous Vincent Bontemps.
Bonjour à vous Adèle, bonjour à tous.
Dans les courtes causeries que je dois consacrer à l'imagination matérielle des éléments, je voudrais chaque fois démontrer brièvement que les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, qui ont si longtemps mis en ordre les pensées cosmologiques des philosophes et des alchimistes, demeurent de nos jours encore des centres d'images, des foyers centraux où l'imagination des poètes trouve une étrange raison d'unité. Autrement dit, les 4 éléments matériels sont chacun la base d'une imagination, qu'on peut bien appeler une imagination matérielle, puisque cette imagination dépasse, en quelque sorte, la contemplation des formes et des couleurs pour rêver à des richesses et à des puissances au cœur même des choses, au cœur même du monde.
the Jimi Hendrix Experience sounding off again now with one of Jimmy's own called Fire.
You don't care for me, I don't care about that. You got a new fool, I like to laugh at. I have only one a burning desire. Let me stand next to your fire.
Let me stand next to your fire.
Vincent Bontemps, vous êtes philosophe des sciences et des techniques. Vous travaillez au LARCIM, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à Bachelard, publié aux Belles Lettres. Et à vous revient l'honneur de commencer cette semaine consacrée aux quatre éléments, à la pensée des quatre éléments selon Gaston Bachelard. On l'a entendu, c'était un extrait d'une de ses fameuses causeries diffusées en 1954. Dire en quel sens ces quatre éléments l'intéressaient. Et pour lui, dit-il, ce sont des centres d'images, des foyers centraux, très importants pour les poètes. Et surtout, ces quatre éléments matériels sont chacun à la base d'une imagination. Alors, puisqu'il s'agit du feu aujourd'hui, de quoi le feu est-il le centre? Que permet-il d'imaginer pour Bachelard?
Le feu est un élément qui l'a accompagné toute sa vie. Il s'y est intéressé sous de multiples perspectives. À commencer par la perspective en fait épistémologique dans sa thèse secondaire qui c'est l'évolution essai sur l'évolution d'un problème de physique, la propagation thermique dans les solides. C'est déjà les théories de la chaleur qui l'intéressent. Et donc là il y aura une approche, on va dire vraiment épistémologique qui amène à montrer tous les progrès qu'il y a eu à désubstantialiser la conception du feu, de la chaleur, puisque instinctivement, et jusqu'au XVIIIe siècle, on se représentait la chaleur comme un fluide avec certaines propriétés. Et ensuite, il montre comment les différentes étapes de la mathématisation nous ont amené à avoir une vision toujours plus épurée, jusqu'à avoir une conception chimique et physique de l'agitation thermique qui rend compte des phénomènes de la chaleur de façon appropriée. Et puis, en fait, il a découvert, chemin faisant, qu'il y avait une autre façon d'aborder le feu. C'est plus tardivement, sa thèse secondaire, elle est publiée en 27, et 10 ans plus tard, en 38, il va publier deux ouvrages qui sont intimement corrélés. Un qui s'appelle « La formation de l'esprit scientifique » et dans lequel il expose comment on doit, quand on se met à penser rigoureusement, lutter contre des obstacles épistémologiques. Et ces obstacles sont très souvent des images qui viennent nous empêcher d'accéder à une pensée construite sur des bases qu'on en maîtrise vraiment et qui sont très souvent plus mathématiques et moins métaphoriques. Bien. Et en même temps, il publie un deuxième ouvrage qui s'appelle « La psychanalyse du feu ». Alors le titre complet aurait dû être « La psychanalyse de la connaissance objective du feu ». Il ne faut pas trop s'imaginer qu'on met une chandelle sur un divan pour l'écouter. Ce n'est pas ça. Ce livre se présentait comme un cas particulier d'étude des obstacles qui ont un rapport justement au feu. Un problème qu'il avait déjà soulevé dans son ouvrage sur l'étude des théories de la chaleur. Il avait dit, c'est quand même très étonnant, jusque dans l'encyclopédie de 1776, eh bien, on est persuadé que la chaleur se propage radialement et vers le haut. Mais d'où vient cette idée? Aucune observation, même mal interprétée, ne peut fonder ça. Une expérience très simple qui consiste à chauffer une barre de fer verticale d'un point de vue latéral, puis en évitant que la colonne d'air chaud remonte le long de la barre, montrait très bien qu'il n'y avait aucun. La direction de l'orientation de la barre n'a aucune importance. La chaleur se développe uniquement radialement. Il n'y a pas de tropisme vers le haut. Et en fait, il est très probable que ce qui donnait cette évidence c'est l'image totalement universelle, l'expérience, je veux dire, ô combien vitale de la cheminée, qui au XVIIIe siècle, mais même pour Bachelard, on le retrouvera tout à l'heure, le feu domestique de la cheminée.
Alors
est très
là, on commence à comprendre le terme de psychanalyse du feu, qui est quand même surprenant, puisque vous le présentez en épistémologue, qui s'est intéressé au feu comme élément chimique, et puis on découvre ce terme de psychanalyse, qui est le titre d'un de ses ouvrages. Le feu de cheminée est pour lui un souvenir d'enfance. Il y a de très beaux textes où il raconte son père qui est en train de tisonner le feu et de voir ce que ça lui évoquait à ce moment-là.
Oui, c'est tout à fait exact que c'est lié à l'image du père. Et il y a au premier abord une certaine virilité du feu. Vous demandez déjà de caractériser du feu. Il y a une certaine virilité, même si on verra que la part féminine, la chaleur obscure est aussi très importante. Et son père, c'est des pages très émouvantes parce que la psychanalyse du feu, c'est le premier ouvrage où Bachelard dit « je ». Ouais. Hein, avant, on est dans le nous, on est dans la posture objectivante. Et puis, les expériences intimes, données presque sous forme de confession, apparaissent avec la psychanalyse du feu. Mais c'est ça qu'on verra se prolonger dans l'écriture qu'on dit nocturne, hein, qui est liée à toute cette exploration de l'imaginaire. Et le souvenir très émouvant de son père qui venait allumer ou rallumer le feu dans sa cheminée, le matin.
Et ces exemples qu'il prend, qu'il égrène tout au long du livre, qui d'ailleurs procède beaucoup en images, c'est pour ça sans doute qu'on pourrait y voir comme un film, parce qu'il s'intéresse à la fois aux souvenirs. Cet ouvrage est très bizarre, parce que, et d'ailleurs c'est toute la démarche de Bachelard est résumée dans ce livre, parce qu'à la fois il y a une démarche, disons quasiment scientifique, très, très méthodique, méthodologique, et en même temps lui-même se laisse happer par des associations d'idées, des souvenirs, des rêveries, sans que cela ne pose un problème pour lui. Et d'ailleurs, dans les personnes qui travaillent sur Bachelard aujourd'hui, on peut distinguer quand même deux groupes, ceux qui associent Bachelard à un épistémologue et qui ne trouvent d'intérêt que dans cet aspect-là, et ceux qui en font un poète, ou même quelqu'un qui est plus dans la rêverie, qui ne s'intéresse pas au côté épistémologie. Vous essayez de réconcilier les deux dans votre livre, Vincent Montand.
Oui, c'est bien dommage d'ailleurs qu'il y ait cette scission entre deux Bachelard, parce que les deux sont tout aussi intéressants, et en plus, l'un et l'autre, c'est clair. Il ne faut pas les confondre, mais c'est absolument certain que c'est complémentaire. Et la psychanalyse du feu, vous faites bien de le faire remarquer, c'est ce livre où il y a un point de bascule, c'est-à-dire il affirme que c'est un livre qui est rempli, comme il dit, de sottises, c'est-à-dire qu'il va faire une thératologie comme il a fait dans la formation de l'esprit scientifique. Et en fait, on se rend compte qu'il se laisse prendre au charme des métaphores du feu et qu'il va nous développer toute cette première cartographie d'un imaginaire.
Quand j'étais malade, mon père faisait du feu dans ma chambre. Il apportait un très grand soin à dresser les bûches sur le petit bois, à glisser entre les chenets la poignée de copeaux. Manquer un feu eût été une insigne sottise. Je n'imaginais pas que mon père pût avoir d'égal dans cette fonction qu'il ne déléguait jamais à personne. En fait, je ne crois pas avoir allumé un feu avant l'âge de 18 ans. C'est seulement quand je vécus dans la solitude que je fus le maître de ma cheminée. Mais l'art de tisonner que j'avais appris de mon père m'est resté comme une vanité. J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin.
Voici la véritable base du respect devant la flamme. Si l'enfant approche sa main du feu, son père lui donne un coup de règle sur les doigts. Le feu frappe sans avoir besoin de brûler. Que ce feu soit flamme ou chaleur, lampe ou fourneau, la vigilance des parents est la même. Le feu est donc initialement l'objet d'une interdiction générale. D'où cette conclusion ? L'interdiction sociale est notre première connaissance générale sur le feu. Ce qu'on connaît d'abord du feu, c'est qu'on ne doit pas le toucher. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les interdictions se spiritualisent. Le coup de règle est remplacé par la voix courroucée par le récit des dangers d'incendie, par les légendes sur le feu du ciel. Ainsi, le phénomène naturel est rapidement impliqué dans des connaissances sociales complexes et confuses qui ne laissent guère de place pour la connaissance naïve. Dès lors, puisque les inhibitions sont de prime abord des interdictions sociales, le problème de la connaissance personnelle du feu est le problème de la désobéissance à droite. L'enfant veut faire comme son père, loin de son père, et, de même qu'un petit Prométhée, il dérobe des allumettes. Il court alors dans les champs, et au creux d'un ravin, aidé de ses compagnons, il fonde le foyer de l'école buissonnière.
Le problème de la connaissance personnelle du feu est le problème de la désobéissance à droite, à savoir c'est un problème, disons, d'ordre social avant d'être personnel, Vincent Bontemps. Dans la psychanalyse du feu, c'est ce que montre Bachar, c'est que finalement, il est très difficile de connaître le feu subjectivement, de manière intime. On est toujours, ce sont peut-être les obstacles épistémologiques, toujours emprunt de ces références qui, elles, sont sociales, voire archaïques et nous dépassent largement.
Oui. Le feu, vous avez passé un extrait de La guerre du feu au début. Et Bachelard rappelle à quel point les mythes sur l'origine du feu sont importants pour l'humanité. Et il connaissait très bien les travaux de James George Frazer et des autres anthropologues. Mais justement, ce qui est intéressant chez Bachelard, c'est qu'il va retourner, et on va comprendre la réponse à votre question, il va retourner l'interprétation usuelle des anthropologues qui font de ces mythes une métaphorisation d'une découverte assez triviale du feu par accident, des cailloux qui s'entrechoquent, des bois qui se frottent et le feu naît, et puis ensuite on invente. Et Bachelard dit, mais c'est pas du tout ça. Le feu est lui-même une métaphore, mais son invention repose sur une rêverie et sur une projection de notre intimité. Parce qu'il y a quelque chose dont il est la métaphore et qui est encore plus consubstantiel à l'être humain, et c'est la sexualité, en fait. Et donc, il voit dans les gestes répétitifs de frottement du bois contre le bois, finalement, la métaphore de l'acte sexuel. Et donc, notre connaissance intime du feu, c'est notre connaissance de notre devenir poète et technicien en même temps. Et il y a quelque chose dans sa façon de traiter le mythe de Prométhée qui est profondément original, parce que ce que vous avez cité sur la désobéissance à droite, c'est le mythe de Prométhée. Et donc, la plupart des gens qui parlent du mythe de Prométhée, je pense qu'on en comparera avec d'autres versions, s'intéressent soit au début du mythe, quand Épiméthée oublie de nous donner un don, et puis on raisonne sur ce que fait, que la technique et le feu sont des compléments pour compenser notre faiblesse naturelle, ou alors sur les conséquences, sur le fait que le mythe prométhéen, c'est le mythe d'un être humain, d'un titan, mais de l'humanité qui va être puni pour avoir acquis la puissance technique et qui va se retrouver comme Prométhée enchaîné et se voir son foie, etc. Bon, Bachar n'est pas intéressé par ça. Bachar, il est intéressé par cette générosité de voler le feu, qui est un vol, et donc qui est une action illégale, et qui néanmoins est totalement nécessaire au développement de l'humanité. Et il fait de la désobéissance à droite ce geste par lequel notre liberté, tout en ayant intégré la norme, apprend à la transgresser, ce qui est vraiment quand même assez fin et assez proche d'ailleurs de certaines analyses psychanalytiques, et qui résonne, je vous disais que c'est un livre de bascule, ça résonne encore tout à fait avec son discours épistémologique, puisque l'épistémologie de Bachelard, ce n'est pas d'apprendre l'état structuré de la science à une époque, c'est d'apprendre comment elle progresse, et elle progresse quand elle transforme ses normes, la science. Et donc, il y a cette désobéissance à droite, c'est aussi celle qui guide le scientifique quand il découvre, et qui finalement il désobéit, que Einstein désobéit à Newton, mais au nom des mêmes valeurs, pour faire progresser la science.
C'est-à-dire que de scientifique, dans cet ouvrage, Bachelard se fait poète, ça, il l'a toujours été, mais il y a aussi une dimension quasiment... il décrit, c'est comme un phénoménologue, hein, il le dit d'ailleurs, il dit qu'à ce moment-là, il doit laisser de côté de l'épistémologie pour se faire phénoménologue. Il a l'air lui-même surpris, mais c'est la meilleure façon pour lui que d'essayer de penser ce qu'est le feu.
Oui, il n'y a qu'un seul chapitre qui finalement répond, ça s'appelle La chimie du feu. C'est le seul chapitre qui répond au programme qui s'est donné dans l'introduction et qui correspond aussi, pour ainsi dire, à une partie qu'il aurait retirée de la formation d'esprit scientifique. Les autres chapitres sont des variations autour de thèmes qui lui sont inspirés par le feu et qu'il rapporte à ce qu'il appelle des complexes. Et donc l'outil qui lui sert à cette époque, et c'est très novateur, c'est la psychanalyse. On est quand même en 38, hein, donc ça reste quelque chose dont il est vraiment l'introducteur dans le discours philosophique, pour une grande part. C'est d'utiliser la psychanalyse sous une forme très originale et à travers cela, de permettre l'entrée dans une complexion particulière, celle de poète et celle de rêverie qui nous sont presque à tous familières. Et c'est pour ça que les souvenirs d'enfance apparaissent naturellement. C'est pour ça que l'image, finalement, va se libérer du cadre réducteur d'être considéré uniquement comme un obstacle pour devenir l'objet d'une rêverie.
Alors, il y a trois complexes. Il prend cette notion du psychanalyste Jung, hein, la notion de complexe, on y reviendra sans doute, mais il y a trois figures, trois mythes qu'il explore dans cet ouvrage en particulier. Prométhée, vous l'avez dit, Empédocle également. Empédocle, donc ce médecin ingénieur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui va se jeter dans l'Etna. Et l'analyse que Bachelard propose de ce geste est fabuleuse, hein, puisqu'il montre à la fois qu'Empédocle est fasciné par le feu, il s'y jette de manière irrésistible, et qu'en réalité c'est une sorte de dialectique de l'être et du non-être. Il faut, cette captivation par le feu est en fait un désir de rien, de non-être. Ça, c'est absolument bouleversant. Et le phénix également. Il y a de très belles pages où il raconte comment sa mère mettait du bois, sa grand-mère mettait du bois dans la cheminée petit. Il voyait comme un oiseau dans les flammes, et c'était son petit phénix à lui, sa manière personnelle de raconter une histoire à partir du feu.
Oui, Empédocle. Alors pareil, Empédocle, c'est une lecture assez originale du mythe. Donc Empédocle, on connaît souvent l'histoire de la sandale, des choses anecdotiques. Voilà.
Racontez-nous pour ceux qui ne connaissent pas forcément.
Empédocle était donc un des présocratiques et quelqu'un qui exerçait une grande influence, qui était aussi un dirigeant politique et qui, à la fin de sa vie, a décidé à mourir, enfin c'est la légende qui veut ça, en se jetant dans l'Etna, et la lave aurait gardé l'empreinte d'une de seules de ses sandales au bord du gouffre. Et encore aujourd'hui, quand on visite l'Etna, j'y suis allé, on nous montre l'endroit où il y a l'empreinte de la sandale d'Empédocle. Mais ce qui intéresse Bachelard, c'est ce que vous avez cité, les grandes images, et le feu évidemment en fait partie, ont toujours une sorte de réversibilité, d'ambivalence. Et donc le feu est à la fois purification, donc retour à l'état originel et désir d'anéantissement. Et donc chez Empédocle, les deux sont magnifiés parce que dans sa philosophie, c'est ce qu'il rappelle, en fait, l'élément, vous savez que tous les présocratiques choisissent pour ainsi dire un élément comme étant la chose fondamentale, et chez Empédocle, c'est le feu. Donc nous sommes censés venir de leur Big Bang, du Big Bang des anciens, c'est-à-dire d'une grande explosion de feu, et un jour, l'univers s'enflammera à nouveau et s'anéantira pour renaître. Donc ça, c'est la théorie d'Empédocle. Et donc, on voit bien comment son destin personnel, ce désir de finir brûlé, rentre dans le cadre de ce rapport entre le cosmos et la volonté d'avoir un destin pour l'individu à travers le feu.
La mort d'Empédocle n'est pas simplement un fait divers de l'histoire de la philosophie. En effet, qu'est-ce qui maintient l'image d'Empédocle dans la vie spirituelle de tout songeur de la vie et de la mort, de tout rêveur de feu? Ce n'est assurément pas l'histoire des péripéties d'une vie sociale, et ce n'est pas non plus la philosophie dispersée dans les fragments d'une pensée philosophique que l'on désigne mal comme une philosophie première. Non, Empédocle est une des plus grandes images de la poétique de l'anéantissement. Dans l'acte empédocléen, l'homme est aussi grand que le feu. L'homme est le grand acteur d'un cosmodrame vrai. Le drame d'Empédocle ne se décide pas dans une dialectique du oui ou du non. La négation opère sur des idées, jamais sur des images. Les dialectiques d'interprétation se multiplient. Se vouer au feu, n'est-ce pas devenir feu? Ou bien se vouer au feu, n'est-ce pas réussir à devenir rien? Grand passage de la majesté de la flamme à la majesté du rien. Ou bien encore ce grand feu, ce feu total. N'est-il pas le garant d'une totale purification? Alors être purifié, n'est-ce pas une garantie de renaître? Quelque espoir de phénix n'est-il pas au cœur du philosophe? Ainsi ce champ d'interprétation est-il ouvert? Et si l'on surcharge le drame du philosophe en l'interprétant par sa philosophie, par une philosophie transmise par maintes reconstitutions, toutes les transpositions sont possibles. Chacune de ces transpositions est un thème de rêverie philosophique. Ici, les idées rêvent. Et toutes ces rêveries peuvent bien être désignées comme empédocléennes. Elles sont des pré-actes qui ne passent pas à l'acte, délicates synthèses de tension et d'effroi. Il est des heures où tout grand rêveur de flamme les connaît. Vincent Bontemps, il nous faut expliquer ici ce que Bachelard entend par ce terme qui revient dans toute son œuvre et qui est celui de rêverie, puisqu'il dit que chacune des interprétations, les transpositions de ces mythes est un thème de rêverie philosophique. Qu'est-ce qu'une rêverie philosophique?
Ah, c'est assez subtil. Bon, vous voyez dans les titres qui vont suivre, l'eau et les rêves, l'air et les songes, il y a les mots rêve, songe, et ça évoque l'onirisme et donc cet état de sommeil paradoxal dans lequel des images nous viennent. Bon. Et en fait, bien que ces matériaux soient un peu mobilisés, c'est pas ça que Bachelard a en vue. Bachelard a en vue cette rêverie, c'est-à-dire une activité de divagation où nous sommes dans l'éveil, pas totalement, dans ce demi-éveil, dans cet état qu'on appelle le crépuscule, hein, et où notre esprit se part à la dérive, divague. Et pourquoi rêverie philosophique maintenant ? Donc parce que bon, la rêverie, on voit bien, on travaille sur des images, on les enchaîne, on est à la limite du fantasme, on revient, bon voilà. Mais la rêverie est philosophique parce que ce qui l'intéresse, c'est quand même ceux qui sont des professionnels de la rêverie, c'est-à-dire les poètes, les écrivains, ceux qui vont filer des métaphores, justement, mais qui ne le font pas n'importe comment. Il y a la volonté de trouver une solidarité, une logique qui n'est évidemment pas la logique ordinaire ni celle de la science, mais qui est que toutes les images, toutes les associations d'images ne sont pas aussi pertinentes les unes que les autres. Hein. Et donc, cette volonté de suivre des images en restant fidèle à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être un élément, ce centre d'image, et plus précisément, ça peut être tel ou tel complexe où on sent que cet élément est décliné d'une façon particulière. Et donc, on a on a les complexes qui sont très présents dans la psychanalyse du feu, puis on va avoir des caractérisations des autres éléments aussi, on va avoir, ah tiens, je vais en prendre un.
Allez-y.
Quelque chose qui compte beaucoup pour Bachelard dans la psychanalyse du feu, mais qu'on retrouve dans l'eau de les rêves et en fait qu'on retrouve un peu partout, c'est l'eau de feu, l'alcool, le vin, l'ivresse,
le brûlot.
Et le brûlot aussi. C'est-à-dire que là se trouve pour Bachelard, dans cet entrecroisement entre l'eau et le feu, qui lui sert un peu quand même, je trouve, de prétexte. Mais bon, il dit, voilà, l'alcool, c'est cette eau qui vous brûle la langue. Et donc, il va avoir un complexe, qui va être le complexe de Hoffman, ou complexe du punch. Et il va vous expliquer que le feu, et le feu à travers donc l'eau de feu, l'ivresse, c'est cette étincelle qui fait que on va partir à la dérive, qu'on va rentrer dans justement un rapport où on s'éloigne de la sécurité, de la norme, et il va arriver des choses fantastiques, peut-être fatales d'ailleurs.
Ce texte du brûlot, on le trouve dans la psychanalyse du feu, en effet, il dit d'ailleurs, une fois qu'on a goûté au brûlot, la chaleur d'une tasse de thé nous paraît bien fade, puisqu'on ne revient pas de cette ivresse propre au brûlot. Et il dit, voilà, quand on regardait notre père faire cet alcool à partir du marc et de morceaux de sucre cassé, alors on théorisait, il disait, éteindre trop tard, c'était avoir un brûlot trop doux, éteindre trop tôt, c'est concentrer moins de feu, et par conséquent diminuer l'action bienfaisante du brûlot contre la grippe.
Ah oui,
lorsqu'on écoute ces textes, Vincent Bonton, on peut se demander aussi, mais où va Bachelard finalement ? Puisque là, on a vu toutes les dimensions du savoir qu'il abordait et qu'il semble se perdre dans des rêveries, dans des souvenirs. Et est-ce qu'on peut lire ce texte autrement que comme une rêverie qui finalement ne l'intéresserait que lui ? Est-ce qu'il y a une valeur, pour le coup, qui soit philosophique et qui apporte quelque chose à sa propre pensée ?
Votre enthousiasme et le mien me font dire que non. On voit d'où il vient, c'est vrai, et c'est un homme qui descendait à la cave avec un bougeoir à la main, qui vivait quotidiennement le feu de cheminée. Donc c'est quelqu'un qui vient du 19e siècle, qui est né en 1884, ne l'oublions pas, mais qui garde pour nous une immense valeur affective parce qu'il porte le témoignage, dans sa singularité, de choses qui sont présentes en chacun de nous. Hein, sa façon de parler de d'autres images, hein, aussi importantes que les éléments, la maison, la nuit, la vigne, c'est des choses qui résonnent encore en nous.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h31, c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Gaston Bachelard, la vie rêvée de Gaston Bachelard à travers quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est donc du feu qu'il est question aujourd'hui. Nous en parlons en compagnie du philosophe Vincent Bontemps, à qui l'on doit un ouvrage intitulé Bachelard, publié aux Belles Lettres. Le rêveur est à sa table. Il est en sa mansarde. Il allume sa lampe. Il allume une chandelle. Il allume sa bougie. Alors je me souviens. Alors je me retrouve. Je suis le veilleur qu'il est. J'étudie comme il étudie. Le monde est pour moi, comme pour lui, le livre difficile éclairé par la flamme d'une chandelle. Car la chandelle, compagne de solitude, est surtout compagne du travail solitaire. La chandelle n'éclaire pas une cellule vide, elle éclaire un livre. Seule, la nuit, avec un livre éclairé par une chandelle, livre et chandelle, double îlot de lumière, contre les doubles ténèbres de l'esprit et de la nuit, j'étudie. Je ne suis que le sujet du verbe étudier. Penser, je n'ose. Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier. Mais la chandelle s'éteindra avant que le livre difficile soit compris. Il faut ne rien perdre du temps de lumière de la chandelle, des grandes heures de la vie studieuse. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. Alors les heures ondulent dans la solitaire veillée. Les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la liberté des rêveries. Cette trop facile liberté d'un homme solitaire. Nous avons fait un bond en avant de plusieurs décennies, Vincent Bontemps. Nous sommes en 1961.
Oui.
Paraît la flamme d'une chandelle, texte absolument bouleversant, on a pu l'entendre, j'en ai lu un tout petit extrait, où cette fois-ci, pour le coup, on a vraiment l'impression que Bachelard a basculé du côté de la poésie subjective.
De la méditation, de quelque chose de beaucoup plus épuré. Désormais, il n'est plus question ni de psychanalyse, ni de phénoménologie. On est dans un discours très simple et pourtant où tout est dit. Et c'est bouleversant, comme vous l'avez dit. C'est le dernier livre publié de son vivant. Il mourra l'année suivante, sans jamais avoir cessé de travailler, sans jamais avoir cessé de se lever à 5 heures du matin et de commencer par allumer une bougie. De lire d'abord un peu de poésie, puis de se mettre à étudier, de travailler donc pendant très très longtemps des livres de science sur la fin de sa vie, plutôt des livres de poésie et de littérature. Et tout est dit dans ce texte. Il y a cette idée qu'on est finalement très fragile, on est entouré des ténèbres, les ténèbres de l'esprit, les ténèbres physiques d'un côté et de l'autre. Et puis, on est à travers cette lumière que nous entretenons, qui est petite, fragile, vulnérable, qui flotte, qui est fascinante, on entretient une continuité avec les siècles. Et donc, celle de l'étude et celle de la chandelle. Et c'est très important pour lui de continuer d'allumer. Bien sûr qu'il pourrait appuyer sur l'interrupteur et avoir la lumière électrique, mais on ne peut pas parler avec une ampoule. On ne médite pas en regardant une ampoule allumée. Ce n'est pas possible. Alors qu'avec la chandelle, je ne sais pas pour vous, moi ça m'évoque l'étoile de Georges de la Tour ou ces choses-là, c'est immédiat. On est plongé dans la chaîne des siècles.
L'éclair obscur esthétique, mais d'ailleurs Bachelard le dit lui-même, qu'il essaye de transposer dans le registre philosophico-poétique l'équivalent du clair obscur en histoire de l'art.
Oui. C'est une et puis c'est un sentiment aussi, je veux dire, de crépusculaire. Hein. Il y a cette marque sur la solitude, solitude qu'il connaît précocement. Le décès de sa femme, c'est dès 1921. Beaucoup de ses amis ont été résistants et sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Certains de ses compagnons se sont perdus aussi. Il est à la fin de sa vie et il est en train de méditer sur les forces positives qui nous restent, même quand cette solitude et cette certitude de la mort prochaine sont sur nous.
Pourquoi cette pique contre les philosophes? Puisqu'il dit « je n'ose pas penser ». Avant de penser, il faut étudier. Bon, seuls les philosophes pensent avant d'étudier et pour lui, c'est un problème.
C'est l'une des grandes vertus de Bachelard que de piquer les philosophes. C'est parce que c'est quelqu'un qui venait justement aucunement un héritier, aucunement quelqu'un qui vient de la scolastique, mais qui venait des intérêts pratiques, qui avait servi au front, qui avait été professeur de chimie et de physique, et qu'il est rentré ensuite en philosophie, qu'il a été capable de bousculer les certitudes paresseuses des philosophes de son époque et de leur dire de se mettre au travail et d'éviter les facilités. Je veux dire, tout à l'heure, on parlera de Robert Musil, qui est très célèbre parmi les...
Dans la chronique de Géraldine Mosna-Savoie, oui.
Oui, et qui est très célèbre parmi les philosophes analytiques. Et les philosophes analytiques reprochent très souvent une espèce de paresse intellectuelle et de goût pour la rhétorique chez les philosophes continentaux. Bachelard, il ne faut pas l'oublier, était du côté de la lutte que menait aussi le cercle de Vienne à cette époque, même s'il n'était pas du tout convaincu par les options logiques, hein, c'est évident. Mais il était du côté de ces gens qui disaient il faut bousculer la métaphysique, il faut se remettre à travailler avant de penser. Voilà. Et donc c'est ça, c'est un dernier coup de griffe, voilà, avant de partir. Bienvenue, mais c'est quelque chose qu'il aura répété toute sa vie.
Bah, écoutons-le justement le répéter à sa manière, c'est dans un entretien intime avec Jean Lescure en 1960, donc 2 ans avant sa mort, où il dit bien qu'aussi la flamme d'une chandelle, c'est le titre du livre, fait rêver. Pour autant, elle ne conduit pas à l'endormissement, c'est sans doute la différence avec le rêve.
Dans mon petit livre, La flamme d'une chandelle, j'ai déjà senti quelques réactions de mes lecteurs, que devant le feu, bon, ma foi, on s'endormait encore assez volontiers. C'est pas la rêverie devant le feu nous conduit à une espèce d'assoupissement, à une espèce de conscience d'un tel bien-être, n'est-ce pas, que le sommeil nous prend. Et j'y opposais précisément la flamme d'une chandelle, d'une bougie, où je disais, devant une flamme d'une bougie, n'est-ce pas, on ne s'endort pas. Voyez-vous, par conséquent, c'est là, c'est dans une espèce de flamme unique que nous aurions les images du feu qui devient aérien. Alors la chandelle me donnerait, si vous voulez, un peu de nourriture aérienne. N'est-ce pas? Et alors, par conséquent, c'est donc une rêverie qui va penser, c'est une rêverie qui va s'ouvrir à la poésie, et elle va à l'encontre de la rêverie ordinaire.
Vincent Bontemps, si la flamme est une forme de... la flamme d'une chandelle est une forme de nourriture aérienne, alors quelle différence entre le feu et cet autre élément qu'est l'air? Puisque finalement, on va aborder ces 4 éléments cette semaine, et à mesure qu'on va les étudier, les entendre, les écouter, on voit qu'ils sont beaucoup plus liés qu'il n'en a l'air.
Bachelard va multiplier les croisements entre les différents éléments. L'eau de feu, je l'ai déjà cité, mais il y aura aussi, par exemple, quelqu'un comme Nietzsche est un poète qui est très profondément igné, lié au feu, et puis finalement qui sera aussi aérien parce que lié au courant ascensionnel. Et donc l'idée de la chaleur qui monte. Voilà. Donc il y a beaucoup de passerelles. Ce qu'il faut avoir dans l'idée, c'est 2 choses. La première, c'est que Bachelard ne sera jamais satisfait du traitement qu'il aura donné du feu. Hein, il l'a vu sous tous les angles et pourtant jamais satisfait. Et pourquoi? Parce que, et c'est la deuxième chose, en fait, il est amené à construire un peu dans l'improvisation son cycle des éléments. Aurait-il fait vraiment ce cycle en dehors de circonstances historiques vraiment particulières? Après le feu, le livre qui vient et qui est une sorte de livre libératoire où il traite cette fois-ci vraiment la poésie pour elle-même, c'est le livre sur Lautréamont. Et ce livre sur Lautréamont, il n'est pas du tout question des éléments, il est question de regarder les complexes d'un poète et de comprendre ce qui fait la racine de sa poésie, en l'occurrence une forme d'agressivité. Et puis, ce qui arrive, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et il se retrouve à Paris. Il a encore un livre qui termine d'épistémologie, mais il n'a plus accès à la nourriture spirituelle des travaux scientifiques, comme personne d'autre d'ailleurs à cette époque. Et donc il se replie sur la sphère intime et il écrit L'eau et les rêves à ce moment-là. Et il dresse à ce moment-là, L'eau et les rêves, un programme auquel il ne va pas se tenir. C'est-à-dire L'eau et les rêves, il dit, bon, bah là j'ai fait l'imagination substantielle de l'eau, et puis vous voyez, c'est le deuxième élément que je traite, alors que visiblement la psychanalyse du feu, elle n'appartenait pas encore à ce programme de travail. Et puis je vais vous faire maintenant l'eau dynamique. Et puis en fait, il ne fait pas le livre sur l'eau dynamique, il fait le livre sur l'air, qui est très dynamique. Et donc là, on est en 42 pour l'air, je crois. Et puis
43, oui.
43. Et puis, une fois que la Deuxième Guerre mondiale est finie, bon, il finit avec deux livres sur la Terre, la Terre et les rêveries du repos, la Terre et les rêveries de la volonté. Et donc, on a l'impression qu'il a fini un cycle. Mais entre-temps, il a abandonné la psychanalyse et il est passé plutôt du côté de la phénoménologie. Donc, on est dans une sorte d'improvisation constante. Ce qui m'amène d'ailleurs à une remarque, c'est que c'est très riche d'avoir choisi les quatre éléments. Et en même temps, il ne faut pas être dupe, et lui-même ne l'était pas, on le sent sur la fin de sa vie, de la systématicité de ces éléments. Il ne prend pas très au sérieux les théories, que ce soit d'Aristote ou des alchimistes, sur la composition de la matière, ce n'est pas du tout ça. Il y a une chose qui le frappe quand même, c'est le fait que les rites mortuaires sont liés aux quatre éléments. On brûle les cadavres, on les expose en l'air, on les enterre ou on les met sur un fleuve pour qu'ils dérivent ou on les envoie par l'eau. Donc ça, c'est vrai. Et c'est une des choses qu'il cite. Mais sinon, en fait, est-ce qu'elle existe vraiment, cette systématicité? Et surtout, est-ce qu'elle est close dans l'esprit humain? Probablement pas. Et il y a des moments où il y a des remords de ne pas avoir traité. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la nuit, à la ténèbre. Voilà, j'ai écrit des articles là-dessus et j'ai un livre qui devrait paraître prochainement avec Roland Le Houk sur ce thème. Et le fait est que c'est une image aussi puissante que chacun des quatre autres éléments, la ténèbre.
Mais
et la lumière l'aurait été.
Sur la nuit, sur l'arbre et la nuit, et c'est en fait en écrivant l'arbre, la psychanalyse du feu qu'il voit qu'il est en train d'écrire sur autre chose, comme si c'était pas du tout prémédité.
Il parlera de l'eau noire, donc du coup, c'est des choses qui rentrent par la bande dans ses autres livres, et puis quand il aura cessé d'avoir épuisé cette veine-là, les quatre éléments, il va quand même continuer sur des images qui sont décentes, la maison, dans la poétique de l'espace, c'est
l'abri,
très très important.
On en parlera jeudi prochain.
Ouais. Voilà. Donc ça, c'est il faut libérer un peu la conception d'imaginaire de Bachelard d'une systématicité trop rigide. Voilà.
On pourrait davantage, d'ailleurs il le fait lui-même, parler d'alchimie que de système.
Oui, parce que l'alchimie est la métaphore justement de cette pseudo-systématicité. Il en parle dans un des livres sur la Terre quand il parle que la vigne finalement apprend à vieillir en traversant le zodiaque. Sur la façon de garder en fût un vin, c'est vrai que l'alchimie lui sert de symbole de ses projections d'imaginaire. C'est à la fois ce qui est dénoncé comme obstacle épistémologique d'un côté, et donc l'alchimie, c'est comme disait Jung, qu'on a cité tout à l'heure en disant c'est une inspiration profonde de Bachelard. C'est un art où il n'y a pas de. Qui se présente comme une pseudo-science et dans lequel il n'y a pas de critère expérimental. Donc par conséquent, l'imaginaire s'y déploie librement et on y voit beaucoup de symboles. Et donc c'est pour ça que Bachelard fait fond là-dessus pour ensuite montrer comment, si c'est une pseudo-science, en revanche, c'est une. Parfois, ça fournit des clés très subtiles pour organiser l'imaginaire lui-même. Ça nous donne un témoignage sur la façon dont les choses se nouent du côté de l'imaginaire.
Finalement, le terme qui permet de décrire au plus près, peut-être de manière la plus fidèle, le geste de Bachelard quand il écrit, que ce soit en épistémologue, en poète, en philosophe, en psychanalyste, enfin, quelqu'un qui connaît bien la psychanalyse, c'est celui du dynamisme. Vous avez dit, il improvisait en écrivant, il voulait écrire sur l'arbre et la nuit, il se met à écrire sur le feu. Le même mouvement que l'on retrouve dans toutes ces formes d'écriture, c'est finalement celui d'un même dynamisme de l'esprit.
C'est certain que c'est la mise en mouvement de l'esprit, que ce soit par une formule mathématique ou par une formule poétique, qui est la racine commune de l'être écrivant qu'est Bachelard. Et il y a autre chose dans l'extrait que vous avez diffusé qui était très frappant. Je vous dis, tout est dit dans ce petit texte, La flamme d'une
l'extrait
chandelle.
L'extrait de La flamme d'une chandelle, oui.
C'est l'alternance. Vous avez vu, je travaille, j'étudie, et puis tout d'un coup, mon regard se lève vers la flamme. Voilà. C'est le fait qu'en fait, on doit bien conduire sa vie par une alternance entre ces moments d'éveil dans l'éveil, c'est-à-dire ces moments où on réfléchit, où on pense, où on se prête à la rigueur des raisonnements scientifiques, et puis ces moments où on relève la tête et on est fasciné par cette petite flamme qui n'est pas que le feu, qui a aussi ce rapport à l'air, mais qui est surtout un rapport avec cet enchâssement de la ténèbre à l'intérieur de la lumière, et donc avec l'angoisse. Et il y a quelque chose de très fort, de très méditatif dans cette façon que Bachelard a de nous enseigner, on le retrouvera dans quelques textes du droit de rêver aussi, une forme d'exercice spirituel, une forme de méditation qui est dans l'alternance, l'apprentissage de tantôt je me prête à une pensée voilà, qui est en mouvement mais qui est toute dans la rigueur de la pensée scientifique, tantôt je dois aussi aller vers la relaxation et vers quelque chose de tout aussi précieux qui est l'exploration des fibres de l'imaginaire, de leur résonance et de ce qui constitue l'autre partie de l'humanité, cette partie nocturne de notre psyché.
Si vous voulez être calme, écrit-il, observez la flamme d'une chandelle. Merci beaucoup Vincent Bontemps d'être venu nous parler de Bachelard aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences et des techniques et que vous travaillez au LARCIM, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, que vous avez publié un ouvrage d'édition Les Belles Lettres intitulé Bachelard. Vous étiez venu en parler à ce même micro, c'était il y a 5 ans. Un ouvrage passionnant et très clair, y compris pour ceux qui n'ont jamais lu Bachelard. Et puis, un dernier mot, quand même, en début d'émission, j'ai dit que Bachelard était né à Bar-sur-Aube et qu'il avait un accent bourguignon. Alors les plus attentifs d'entre vous, chers auditeurs, auront remarqué que c'était donc faux, puisque s'il est né à Bar-sur-Aube, il avait un accent champenois. Or, j'ai modifié, après avoir parlé avec vous, Vincent Bontemps, parce que vous m'avez dit qu'il avait en effet un accent bourguignon, expliquez-nous.
Oui, la première fois que vous m'avez invité pour parler de Bachelard, je vous avais fait corriger ce détail en vous disant « bah non, il est champenois ». Et je dois vous présenter mes excuses.
Parce que moi, du coup, j'avais écrit champenois, vous m'avez dit « non, c'est bourguignon ».
Ah bah, là, je vous ai fait remettre bourguignon, parce que voilà, je corrige mes erreurs, c'est très bachelardien. Parce que depuis, je suis allé à Bar-sur-Aube et j'ai rencontré des gens fantastiques. Je vous conseille tous d'aller à la bibliothèque de Bar-sur-Aube. Bon, toujours est-il que ce qu'on m'a expliqué, c'est que nous sommes dans une partie de la Champagne et Bar-sur-Aube en est la frontière, vraiment la limite. Le village d'à côté, ce n'est plus vrai, où en fait les gens ont l'accent bourguignon et où les maisons d'ailleurs sont de style bourguignonne et non pas de style Ardennes-Champagne.
Donc Gaston Bachelard est né à Bar-sur-Aube
et il a l'accent bourguignon.
Pour lire Gaston Bachelard, chers auditeurs, ce que je vous conseille de faire toute cette semaine, et en particulier en ce qui concerne le feu aujourd'hui, il y a la psychanalyse du feu qui est disponible notamment en folio essai, également La flamme d'une chandelle aux éditions PUF. Et pour réécouter cette émission, vous le savez, vous pouvez aller sur le site de France Culture, la page Nouveau Chemin, vous pouvez la télécharger, la podcaster, c'est-à-dire l'installer sur votre ordinateur, votre lecteur MP3 et l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Mais n'oubliez pas de vous réabonner au podcast, c'est la rentrée, l'émission n'a pas lieu pendant 2 mois, donc il est possible que le téléchargement ne soit plus automatique. Baby!
Allez, le studio est en feu. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Restez à l'écoute.
Why do you want to do something? Oh. I don't have to explain.
Depuis sa publication partielle en Allemagne, il y a un peu plus de 60 ans, L'homme sans qualité de l'Autrichien Robert Musil est un livre qui fait peur. Je m'empresse de préciser que cette crainte est en tout point fondée, il faut en convenir d'emblée.
Mais alors pourquoi faudrait-il convenir d'emblée que l'œuvre de Robert Musil fait peur? Alors peut-être parce que son œuvre majeure, L'homme sans qualité, parue au tout début des années 30, fait presque 2000 pages, sans même avoir été achevée. Mais alors aussi peut-être et surtout parce que l'on a tôt fait d'assimiler Musil avec cet homme sans qualité. Ce personnage créé par ses soins, Ulrich, qui évolue dans un empire austro-hongrois, la Cacanie, comme l'appelle Musil, qui se délite. Ulrich, personnage inachevé, sans moi qualité. Et bien justement, cet inachèvement, Frédéric Joly, qui signe aux éditions du Seuil une géniale biographie de Musil, il en fait précisément la clé de voûte de son approche mêlée de l'écrivain et de son œuvre. Il en fait une méthode à l'image de l'œuvre de Musil, en partant de la vie de l'écrivain pour la mener, au fur et à mesure des pages et des années passant, vers cet homme sans qualité. Et c'est le 18 novembre 1901, alors que Musil assiste à un récital du musicien polonais Paderewski, que Musil a cette révélation sonore qui va le hanter. La révélation, je cite, « d'une dimension jusque-là ignorée de la vie, échappant au visible, à la vie réelle, pour toucher une autre vie, une vie rêvée, érotique et irrationnelle, où les contours du moi sont incertains, inachevés justement, ils sont autres, mais ils sont tout aussi forts. » Eh bien, c'est de cette passion de l'autrement que prend forme la poétique de Musil. Une passion de l'indifférence, dira Blanchot, parce qu'elle nie la causalité de la vie réelle et parce qu'elle nie le jeu, la première personne dans son rapport aux autres, pour seulement s'intéresser à la création psychique pour elle seule et avec ses errances. Clé de voûte et non pas principe explicatif de cette œuvre, l'inachèvement ne fait donc pas de cet ouvrage une biographie sur quelqu'un qui en dirait ses qualités, mais parvient justement à faire le portrait d'un homme sans qualité.
Qui est une œuvre avec beaucoup de qualités. Géraldine, rappelez-nous le titre. Alors c'est une biographie de Musil.
C'est une biographie de Robert Musil qui s'appelle Tout réinventer. C'est de Frédéric Joly et c'est paru au Seuil.
Merci Géraldine. Les nouveaux chemins, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la vie rêvée de Gaston Bachelard après le feu. Aujourd'hui, c'est d'air qu'il sera question demain en compagnie de la philosophe Marie-Pierre Lassus. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission sur le site de France Culture à la page du Nouveau Chemin, la télécharger, et on vous donne également rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires.